Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Un très grand bonjour à toutes et à tous, un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion, une émission enregistrée lors de la 14e édition de Livre en Vigne, le samedi 25 septembre dernier. C'est avec un grand plaisir que je l'accueille devant notre micro. Christophe Donner, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous et merci vraiment d'être devant le micro avec nous. Vous êtes né à Paris en 1956. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter plutôt que de lire ce que la quatrième de couverture de votre dernier roman chez Grasset nous offre comme présentation ?
Oula !
C'est difficile, hein ?
C'est difficile. Je suis écrivain. C'est ce qui me définit, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je fais. Donc, je suis assez content d'exister. Après, si vous voulez mon parcours, j'ai quitté l'école très, très tôt. Je parle à un enseignant, donc je sais que ça va le toucher. J'ai quitté l'école quand j'avais 14 ans pour... je disais que c'était pas satisfaisant l'école. Qu'il y avait... j'aurais voulu qu'il y ait des enseignements sur le cinéma, sur le théâtre ou sur la littérature autobiographique. Là, je serais resté à l'école. Et donc, je suis parti, je suis monté dans un cirque, en fait. Voilà, le théâtre.
Alors, vous avez été
cinéma.
Chroniqueur hippique.
Et alors après, j'ai découvert les courses, oui. Et comme je perdais beaucoup d'argent, je me suis dit, tiens, ça suffit. J'ai essayé de gagner de l'argent avec les courses. Et donc, j'ai été chroniqueur hippique à François, où j'ai gagné de l'argent comme chroniqueur hippique. Et je jouais déjà un peu moins, ce qui est pas mal. Et après, j'ai même écrit des livres sur les courses. Et puis fait des films sur les courses.
Il y a un cheval quand même aussi au début du
dernier
nouveau roman.
Oui, je me suis rendu compte en étudiant la biographie de mon arrière-grand-père qu'il avait des origines équines. Il était devenu presque vétérinaire, en tous les cas, il vivait parmi les chevaux. Mais bon, en 1880 ou 70, tout le monde avait un cheval. Enfin, à la campagne, la vie à la campagne ne se comprenait pas sans chevaux. Et lui, il habitait en face d'un relais de poste où il y avait des chevaux. Et puis, il y avait un vétérinaire à côté. Et puis, il s'est découvert en allant sortir les chevaux, les occupants, etc., qu'il avait un don de guérisseur de chevaux. Et donc, ça va très vite à la campagne et le bruit s'est répandu. Et après les chevaux, ça a été les vieux. Après les vieux, les enfants. Et on lui a amené tout le monde pour qu'il les masse, pour qu'il les guérisse miraculeusement. Et puis en fait, il était... il avait certainement un don thérapeutique qui était peut-être pas magique, mais qui était conséquent et qu'il a développé en allant à Paris très jeune et en devenant thérapeute. Presque psychothérapeute en fait et spécialiste de l'hypnose. À l'époque, la psychanalyse était vraiment balbutiante, mais elle fonctionnait aussi beaucoup avec l'hypnose. Et lui en était parmi ces gens-là. Il a participé à cette aventure de la psychanalyse, mais c'est pas pour ça que. C'est dans le livre parce que je raconte en même temps sa vie et ses rapports avec les gens qui étaient ses amis, ses collègues et qui se trouvaient être des gens très importants dans l'histoire qu'il ne le concernait pas au départ, l'histoire de l'antisémitisme français.
Alors, votre dernier roman, il faut tout de même en donner le titre, c'est La France Goye, c'est chez Grasset. Alors, La France Goye, comme je disais, ce titre, vous l'avez retenu, c'est une asymétrie du titre d'un pamphlet, d'un essai, qui d'ailleurs a connu un grand essai en librairie en France dès 1886, La France juive de Édouard Drumont. Mmh. Alors, effectivement, vous l'avez dit, c'est renouer à la fois avec l'histoire de vos ancêtres, votre histoire familiale, les racines familiales, mais aussi avec l'histoire de France. Henri Gosset, c'est donc votre arrière-grand-père. Et je vous laisse le soin de nous expliquer comment s'ouvre votre roman, parce que en plus, ça commence par un fait divers.
Oui, ça commence par un fait divers qui est la première apparition du nom d'Henri Gosset dans la presse. Et j'ai découvert en allant chercher dans les archives de mon arrière-grand-père qui est né au Cateau-Cambrésis et dans les journaux locaux, je suis tombé sur cet entrefilet, enfin vraiment cinq lignes de faits divers. Le petit Macron tire sur le petit Gosset.
Ça, c'est incroyable de savoir qu'il y a un voilà. petit garçon Macron.
Alors, c'est deux gosses qui sortaient de l'école. Le grand s'appelait Macron, donc, et a entraîné le petit qui devait avoir 6 ans, qui s'appelait Gosset, qui allait devenir mon arrière-grand-père. Il l'entraînait dans le grenier de la famille. Ils ont découvert une carabine. Ils ont joué à Guillaume Tell ou à Bukowski, je ne sais pas. Mais ils ont joué à la guerre, enfin je sais pas à quoi ils ont joué, mais enfin ils ont tiré.
Et donc le petit Macron tire sur Henri Gosset et le blesse dans le cou.
Au cou. Alors bon, au début, je me suis dit, c'est des hasards, c'est deux noms. Bon, c'est vrai que dans le Nord, ça se passe du côté du Cateau-Cambrésis, donc il y a beaucoup de Macron, il y a pas mal de Gosset. Mais bon, c'était rigolo. Et en fait, je suis tombé après sur la fiche d'état civil, je sais pas comment ça s'appelle, livret militaire de mon arrière-grand-père. Et il y a comme signe particulier blessure au cou, au côté droit du cou.
Qui vient attester donc ce fait divers.
Cette blessure, il n'y a pas tout le monde qui est blessé au cou avec une cicatrice énorme, parce qu'on a cru qu'il était mort quand ils lui ont tiré dessus, ça saignait de partout, voilà, donc les gens ont paniqué. Et c'est aussi le début de son vedettariat dans le village, enfin c'est plus qu'un village, mais tout d'un coup il est devenu le miraculé. Qui avait échappé à la mort. Et, donc
et
tout
en
monde...
plus, il a des pouvoirs.
Et ben, alors, est-ce que ces pouvoirs lui sont venus de cet accident, de cette attention que tout le peuple lui a voué à un certain moment à cause de cet accident ? C'est mystérieux, mais c'est possible. Et voilà le destin de cet homme qui arrive à Paris pour devenir médecin et qui devient psychologue, enfin bon, un truc un peu vague à l'époque, et puis surtout très grand sportif, cavalier, escrimeur.
Qui ne sera pas d'ailleurs retenu dans la sélection voilà. pour les Jeux Olympiques.
Oui, à cause d'un officier juif. Et donc, bon, mais c'est de l'antisémitisme ordinaire, on peut dire. Et puis, mais il rencontre le diable en la personne de Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, Léon Daudet, qui est à l'époque à la fin de ses études de médecine et qui l'embarque dans ses soirées, dans ses beuveries, dans ses orgies gastronomiques. Et puis
est fascinant, Léon Daudet.
Ah ben c'est un génie. Ça, c'est le
paradoxe de
ce. Oui, bien sûr. C'est un
personnage
il a de qui tenir.
Une position antisémite extraordinaire, oui, oui. mais qui est aussi un homme d'une mémoire, d'une culture, d'une intelligence encyclopédique.
Oui, alors je suis remonté aussi à l'enfance de Daudet, de Léon Daudet, qui c'était. Alors, ce lieu-là, ce salon littéraire que tenait Madame Daudet, Madame Julia Daudet, femme de Alphonse Daudet, où on trouvait Zola, où on trouvait
les Goncourt,
Turgenev, etc. Et donc le petit Daudet qui est né là-dedans était l'enfant chéri de toute cette bande-là. Et s'est greffé là-dessus une espèce de monstre qui était un vilain petit journaliste crapuleux qui faisait du chantage à tout le monde et qui était fasciné par la réussite et le talent d'Alphonse Daudet. Et il a réussi par une astuce très, très, très particulière en se mettant bien avec l'enfant. C'est-à-dire en faisant le singe avec l'enfant, en étant le copain de l'enfant, le parrain de l'enfant, de Léon Daudet. Ça tombait bien parce qu'en fait, Alphonse était très malade. Et donc tout ce qu'un père aurait dû faire avec son fils, lui apprendre à faire du cheval, lui apprendre l'escrime, lui apprendre même la littérature, etc. Il avait de plus en plus de mal à le faire. Et c'est Drummond qui a pris la place du père. Et qui l'a formé non seulement à l'escrime et à l'équitation, mais à l'antisémitisme.
Oui. Alors, justement, concernant Édouard Drumont, vous le décrivez dans ce qui est, il faut bien le dire, un roman. C'est un roman.
Oui.
Mais là, vous avez, j'imagine, fait un grand nombre de recherches, tant dans l'histoire familiale que dans l'histoire de l'antisémitisme français.
Oui, c'est un roman. Alors, c'est intéressant que vous me parliez de ça, parce que pour moi, l'histoire, elle est en toile de fond. Évidemment, c'est des personnages romanesques. Ben, c'est des écrivains, donc ça tombe bien.
Oui.
Mais il y a des écrivains qui ont une vie sans intérêt. Bon, peu de gens ont des vies sans intérêt, à mon sens, mais là, c'est des... À l'époque, les écrivains, c'est ceux qui font le monde. C'est les hommes politiques. C'est des gens qui ont un pouvoir médiatique immense. Aujourd'hui, c'est, on ne peut pas croire ça, mais c'est des gens qui ont des journaux, qui se vendent. Le Figaro appartient à Calmette, la Libre Parole à Drumont, justement, Clémenceau a son journal, Jaurès a son journal, ils ont tous leur journal. C'est des hommes politiques d'une influence considérable, et ce sont des écrivains, et la plupart d'excellents écrivains. Et donc, on n'imagine pas le pouvoir que ça représente, ce milieu-là intellectuel à l'époque. Et pour un type comme un petit journaliste déclassé, son père est mort fou, etc., le salon littéraire de Daudet, c'est le nirvana pour lui. Donc, il entre là et il est traité comme un égal. Et tout d'un coup, son ambition monte. Et Alphonse Daudet...
Et il est soutenu, encouragé par Alphonse Daudet, qui l'encourage à écrire un livre sur les Juifs.
Oui, parce qu'il
n'y a peut-être pas d'antisémitisme profondément ancré chez l'auteur des Lettres de Montmoulin.
Oh, si, il y a un antisémitisme ordinaire, on dirait, où tout le monde fait des blagues anti-juives et tout le monde pense que les Juifs ont tué le petit Jésus, que les Juifs tiennent les médias, que les Juifs tiennent les banques, etc. Enfin, tous des lieux communs qui ont cours encore aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, c'était commun. C'était pas non plus des assassins, mais ils avaient
encore que.
À certains moments ça a failli déraper, mais surtout ce qui se passe au moment où Drumont prend l'affaire en main, si on peut dire, et je parle bien d'affaire parce que c'est aussi une affaire commerciale. C'est le moment où se développe dans la science ethnologique et anthropologique la notion de race humaine. C'est-à-dire qu'on classe, à grande époque où il faut classer les choses, il faut classer les plantes, il faut classer les animaux, il faut classer les hommes en différentes races. Donc qui dit différentes races dit évidemment différents stades d'évolution de la race, les races inférieures et les races supérieures. Et c'est magique, les Juifs appartiennent à une race. Alors, comme c'est faux, c'est-à-dire que les Juifs ne sont pas une race, eh ben, il faut créer une race de tous les Juifs. Et c'est là qu'intervient ce truc très bizarre de définir les Juifs comme des sémites. Alors que, bon, ils ne parlent pas tous hébreu, c'est une langue sémite, l'hébreu, mais la langue sémite la plus répandue, c'est l'arabe. Donc, tous les Arabes, pratiquement... Enfin, tous ceux qui parlent arabe sont sémites, parce que c'est pas une race, c'est un langage, c'est la langue sémitique. Et donc, il y a cette espèce d'absurdité de définir les Juifs comme des sémites. Et ce qui est tragique, c'est que les Juifs eux-mêmes adoptent ce terme de sémite. C'est-à-dire que comme à partir du moment où ils sont victimes des antisémites et qu'ils ont des ligues contre l'antisémitisme, c'est comme s'ils acceptaient de se définir comme sémites, ce qui est un non-sens total. Et aujourd'hui, on voit bien, on est au bout de cette boucle absurde, puisqu'on a un homme comme Zemmour, qui est fondamentalement antisémite, puisque son programme, c'est d'éliminer les vrais sémites, c'est-à-dire les Arabes, grosso modo, alors l'islam si on veut, mais surtout les Arabes, c'est-à-dire il veut chasser les Arabes, et la prochaine étape, je pense qu'il s'agit de les exterminer, en tous les cas de les chasser, parce que Drumont au début, il voulait juste aussi chasser les Juifs, et puis on a vu ce que ça a donné. Et donc, le vrai antisémite, c'est Zemmour aujourd'hui. Il est contre les sémites, contre les Arabes. Et c'est bien un retour de bâton de l'invention de ce mot qui a été créé, inventé, mis à la mode par Drumont avec son livre La France juive.
1886.
Et après un autre livre qui définit non plus seulement les Juifs comme des sémites, mais les non-juifs comme des antisémites, comme s'il y avait la race supérieure, c'était les antisémites. Alors le mot n'a pas défini une race, mais en fait, c'est devenu les Aryens, etc. Et donc, c'est un moment très, très important de l'histoire. Et donc, à un certain moment, mon histoire familiale, elle laisse le pas à l'histoire, la grande histoire, à cette histoire de l'antisémitisme. Et donc, le roman, il se construit comme ça, de manière... Je ne sais pas comment on peut dire, mais comme un kaléidoscope, comme un... Bon, moi, j'ai été monteur de films pendant très longtemps, donc j'aime beaucoup faire passer d'un plan à l'autre, faire rendre en écho des choses des chants, des contre-chants, des changements de temps, des changements d'époque, et tout ça fait chorus. Et donc, le livre est construit comme ça, et avec une histoire familiale, personnelle, dans laquelle je me reconnais, parce qu'il y a plein de traits de caractère de mon arrière-grand-père qui me ressemblent, et puis toute l'histoire qui va suivre ensuite, et puis la grande histoire, si on peut dire, mais elles se répondent, elles ne sont pas incohérentes, et elles font avancer le roman par des fils mystérieux parfois, et par, j'espère, une construction judicieuse.
Christophe Donner, si vous le voulez bien, on va marquer un premier intermède musical. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous avoir aujourd'hui devant notre micro à l'occasion de la parution aux éditions Grasset de votre dernier roman intitulé « La France goye ». Nous nous retrouvons d'ici quelques minutes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La France goye, c'est le titre du dernier roman de Christophe Donner qui est aujourd'hui devant notre micro. Alors, j'aimerais qu'on revienne à Édouard Drumont, donc l'auteur de ce pamphlet La France juive, publié par Flammarion en 1886, avec le soutien financier d'Alphonse Daudet. Vous donnez d'ailleurs une description d'Édouard Drumont. Franchement, il n'a rien pour lui. Hein. C'est vraiment quand même un sale type. Vous écrivez « Drumont était laid, pingre, goujat avec les femmes, gentil avec les enfants, catastrophique à l'épée et mal coiffé, mal habillé. Et on aura aussi raison d'ajouter que derrière sa barbe à poux se cachait un mégalomane faussement mystique, le pire des hommes en vérité. Mais vous ajoutez là, il n'en demeure pas moins que son écriture est dotée d'un élan qu'on devrait s'autoriser à regarder sans effroi, à décortiquer sans agressivité, à comprendre sans indifférence ni cynisme. Vous, dans la nuance tout de même, vous lui reconnaissez un véritable talent littéraire.
Bien sûr, comme je peux reconnaître à Zemmour un talent de rhéteur incontestable. La preuve, c'est qu'il fascine tout le monde et que tout le monde le regarde. Il est fascinant. Mais entre le fascisme et la fascination, il y a du cousinage.
Oui. Et alors ce Drumont réussit finalement à atteindre son ambition qui consiste à devenir une figure, et pourtant vous le montrez tout de même tout au long du roman comme quelqu'un qui a raté de grandes occasions, un peu comme le général Boulanger en son temps.
Absolument.
Autre figure, peut-être pas tout à fait comparable, mais en tout cas des désirs d'ambition qui ne sont pas arrivés à maturité.
Oui, alors c'est la question que je me suis posée, que je me pose encore. Pourquoi en France, on n'a pas eu Hitler, on n'a pas eu le Duce, on n'a pas eu des
alors certains
Franco,
disent,
etc.
Christophe Donner, les historiens disent que la France n'a pas connu de régime nazi parce que nous avions eu la Révolution française.
Ouais,
non, ça ne vous satisfait pas.
Non, ça ne me satisfait pas. Je pense que ça tient plus à la culture et au fait justement que les Drumont et les Daudet, pour parler des gens, avaient et puis il y a eu l'affaire Dreyfus. Il y a aussi des hasards. Il y a aussi cette obsession du juif qui déraille complètement. Il y a plusieurs choses pourquoi, mais si on parle que de Drumont, pourquoi Drumont n'est pas devenu le Duce, parce qu'il aurait très bien pu, il est quand même devenu député d'Alger.
Oui, d'Alger.
Hein, et Alger, l'Algérie, c'était pas
mais
rien.
Mais non, réélu.
Non réélu, justement parce que l'affaire Dreyfus. Hein, c'est l'affaire Dreyfus qui effondre le truc, et il est l'auteur de l'affaire Dreyfus pour moi.
Parce que en fait, il faut le dire à nos auditrices et auditeurs, c'est que Drumont, à partir du moment où il a son organe de presse et qu'il a aussi quelque part une sorte de jeune garde active autour de lui, il faut le dire, un peu l'équivalent des
ligue antisémite,
des
nervis qui sont avec.
Drumont cherche des poux, vous parliez de sa barbe à poux, mais il cherche des poux à tout le monde. Et il n'a qu'une envie, c'est de se battre en duel.
Oui, d'abord pour deux raisons. D'abord parce que c'est un sanguin et qu'il aime bien. Mais surtout parce que ça fait de la publicité. À l'époque, ça fait le scandale. Un scandale sans duel, c'est pas un vrai scandale. Et donc, c'est vrai que les types risquaient leur vie quand même. Il y en a qui sont restés blessés, qui sont restés morts après un duel. Et donc, tout ça fait marcher le commerce.
On veut du tirage, quoi.
On veut du tirage. Et la France juive a aussi été lancée par Alphonse Daudet et des articles de presse qui étaient judicieux à l'époque, mais aussi par un duel fameux contre un Dreyfus qui n'était pas le même Dreyfus et remporté par Drumont, où Drumont a été blessé et il était très fier d'avoir été blessé au feu, etc. Bon. Et ça a fait la une des journaux et tout d'un coup un livre qui n'est pas un roman, qui est un livre pamphlétaire et avec un type qui s'est battu, enfin bon, ça a déclenché les choses. Pourquoi la France juive a eu un tel succès aussi par la curiosité des goy, si je puis dire, pour savoir quel nom de juif il y avait à l'intérieur, s'il n'y avait pas leurs voisins, et puis des juifs qui regardaient s'ils y étaient dedans, enfin bon, tout un faisceau de raisons bonnes ou mauvaises qui ont fait le succès de ça. Mais c'était quoi votre question au départ? Pourquoi il n'est pas devenu l'homme politique providentiel?
Oui. Mais parce que il a raté plein d'occasions.
Oui. Alors.
Et puis il n'est peut-être pas fait pour la vie parlementaire. De toute façon, il déteste la démocratie, il déteste la vie parlementaire. Se rêvait président de la République.
Mais je crois que ce qu'il aimait par-dessus tout, c'est écrire. C'est pour ça que je parle des intellectuels, des écrivains. Ils sont excellent, c'est l'avantage des hommes politiques français à l'époque, c'est que ce sont tous d'excellents écrivains et c'est leur handicap.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Bah non. Et pourquoi Victor Hugo, avec le prestige qu'il avait, n'est pas devenu... Pourquoi Lamartine n'est pas devenu président de la République? Pourquoi? Parce que... je pense que parce qu'ils sont écrivains. Et pourquoi Zemmour ne sera jamais président de la République? Parce que finalement, il est écrivain plus qu'autre chose. Il est pamphlétaire, il est voilà, et il va continuer d'empoisonner la vie médiatique avec ça.
Je reviens à Édouard Drumont. J'ai bien compris que c'est un homme qui effectivement traque le juif un peu partout, dans l'armée, dans différents corps de métier. On aura peut-être l'occasion de parler des juifs dans l'armée, enfin, en tout cas, évidemment, d'évoquer l'affaire Dreyfus, comme vous dites. C'est lui qui a sorti ce scandale et ce mensonge d'une enquête qui s'est avérée complètement montée
fabriquée.
En épingle, fabriquée avec la complicité de certains officiers de l'armée française. Mais Drumont, en fin de compte, cherche à se battre en duel. Il cherchera même à provoquer son ami Alphonse Daudet, qui pourtant est paralytique.
Oui, alors là, c'est une
histoire... C'est quand même assez scandaleux, quoi.
Alors là,
il est odieux, ce Drumont.
Ah non, mais il est infect. Mais en même temps, c'est une histoire très intéressante et très contemporaine, cette histoire à laquelle vous faites référence. C'est que Drumont était donc un type vraiment vilain qui ne trouvait pas beaucoup de femmes. Et c'est Julia Daudet qui lui trouve une femme. Donc il trouve une femme, il va se marier, etc. Et puis les parents de la jeune fille, après, que le père de Drumont est mort fou. Et à l'époque, on n'aime pas trop ça. Parce que la folie, c'est un truc, on a compris que ça se transmettait aux enfants
hérédité.
Et que l'hérédité est quand même lourde. Et donc, ils apprennent ça, et plus question de mariage. Et Drumont ne comprend pas, parce qu'il n'est pas au courant que les parents de sa promise sont au courant. Bon. Et donc demande un entretien avec la jeune fille, que la jeune fille lui dise qu'elle ne veut plus se marier parce qu'elle ne l'aime plus, ou elle ne l'aime pas, ou elle n'a jamais aimé. Il veut l'entendre dire. Et donc la rencontre est organisée, à laquelle assiste en cachette Alphonse Daudet, qui est le grand ami de Drumont. Et effectivement, la fille... ment, elle aussi, elle dit « je ne l'aime pas, bon, je ne t'aime plus bon, ». Ok, l'autre il s'en va, triste comme les pierres. Et quelques années après, assez proche après, Alphonse Daudet écrit une pièce qui s'appelle « L'obstacle » où il raconte exactement ça. Et donc il met en scène cette même scène avec les parents qui apprennent que le père du marié était fou. Et dans la salle, le jour de la première, il y a Drumont, il y a le fils d'Audet, il y a tout le monde. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se reconnaît ou il ne se reconnaît pas, mais enfin bon, tout va bien pour Drumont. Sauf que l'éditorialiste culture du Figaro balance le truc en première page. Le personnage principal de la pièce de d'Alphonse Daudet, à l'époque, une pièce de théâtre d'Alphonse Daudet faisait la une du Figaro. Hein. C'était un événement politique et culturel très important. Et donc, il dit, tout le monde aura reconnu le célèbre pamphlétaire et tout le monde reconnaît Drumont.
Édouard Drumont.
Et là, Drumont devient fou. Non pas que son meilleur ami l'ait trahi, mais que ça se sache. Et là, il devient fou, il envoie des lettres comminatoires à Alphonse Daudet, à son ami. Si tu n'étais pas paralytique, parce que Alphonse Daudet était sur une chaise, était très malade, je te provoquerai en duel. Et Alphonse Daudet lui répond, je peux tout à fait me battre depuis ma chaise avec un revolver si tu viens, mais la lettre est interceptée par, par Julia et donc elle ne l'aura jamais reçue. Mais, et donc c'est la rupture entre les meilleurs amis du monde. Et c'est très contemporain où on voit aujourd'hui, j'ai eu l'expérience de ça avec des livres interdits parce que on parle de la famille, on parle des amis, on dit les noms ou en tous les cas on les laisse apparents. Et c'est la question de la place de la littérature dans la vie et la place de la vie dans la littérature.
Alors les noms, il y en a beaucoup dans ce roman et des noms de gens qui ont réellement existé. Alors Léon Daudet épousera la petite fille de Victor Hugo. D'ailleurs lors du mariage, il n'y a que il n'y a qu'hommage rendu à
Oui, c'est un,
Hugo,
c'est un mariage politique, c'est-à-dire c'est un mariage qui est censé unir les Français, le républicain, la famille républicaine par excellence qui est celle de Victor Hugo, qui épouse la famille plutôt de droite et catholique d'Audet. Et donc c'est un événement considérable, c'est la paix républicaine, la paix française. Et ce mariage va se
terminer par un divorce, d'ailleurs.
Par un divorce tragique, et probablement parce que Daudet est un homme violent.
Oui.
Léon Daudet, oui, il y a des témoignages de Jeanne Hugo qui sont assez marquants là-dessus, et on verra après. Ce qui se passe avec Daudet.
Alors, il y a bien sûr l'affaire Dreyfus. Alors, l'affaire Dreyfus, c'est une émanation de Drumont.
C'est une fabrication de Drumont. C'est-à-dire que Drumont, à l'époque, commence, justement, comme vous l'avez dit, il cherche des juifs partout.
Des juifs.
et notamment dans l'armée. Parce que, effectivement, il y a beaucoup de juifs officiers dans l'armée française. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'émigrés d'Allemagne et d'Autriche persécutés, juifs, et à l'époque ils avaient été intégrés dans la société allemande et donc dans l'armée. Et on connaît, c'est pas seulement une légende, la tradition militaire allemande très très rigoureuse et excellente. Et donc tous ces juifs allemands immigrés en France qui avaient du goût pour l'armée sont rentrés dans l'armée française et ils ont constitué une sorte d'élite. Ils étaient parmi les meilleurs officiers français. L'armée française était tenue par des vieux officiers et des gens qui étaient là. Il n'y avait pas ce sang nouveau à l'intérieur de l'armée. Le sang nouveau de l'armée française, il venait des juifs. Et donc, ils ont provoqué, d'une certaine manière, une réaction des vieux Français de souche. Ils nous prennent l'argent, ils nous enlèvent le pain de la bouche. Et Drumont a joué là-dessus en disant, voilà, il y a trop de juifs dans l'armée. Et donc, il fallait trouver un juif. Et à un moment, il lance, ça je raconte, il est parti en exil parce qu'il a été condamné pour machin. Donc, il part 2 ans en Belgique. Et depuis la Suisse, il commande son complot. C'est-à-dire qu'il demande à son rédacteur en chef, il n'y a pas assez de juifs dans ce journal, il n'y a pas assez de dénonciations, parce qu'il a quand même fondé un journal qui s'appelle La Libre Parole, qui est un quotidien antisémite. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire.
C'est le journal de la France aux Français.
Oui, le jour après jour, on ne parle que de ça. C'est comme le canard enchaîné quotidien, quoi, vous voyez, mais un canard enchaîné qui serait dédié entièrement à ça. Et donc, il n'y en a pas assez, effectivement, il faut en trouver. Les Rothschild, ça va 5 minutes, mais il faut en trouver d'autres. Et donc, il a des agents pour lui demander. Et dans l'armée, qu'est-ce que vous avez ? Et dans l'armée, il y a des vrais espions, et il y a des vrais manipulateurs, et il y a ce fameux Esterhazy qui va se charger lui-même de fournir du juif. En fabriquant les pièces, comme ça a été prouvé, c'est pas une invention de ma part, il a fabriqué complètement le fameux bordereau, et c'est lui-même, Esterhazy, qui a confirmé que c'était l'écriture de Dreyfus, alors que c'était sa propre écriture à lui, il avait beau jeu de la reconnaître, c'était la sienne. Et pour offrir à Drumont et à la Libre Parole un scoop. Il a fabriqué le scoop qu'il a vendu...
Moyennant finance, évidemment.
Et qu'il a vendu à Drumont. Et Drumont a orchestré le truc et c'est parti comme ça.
Novembre 1894.
Et à partir du moment où il y avait un juif traître, où il y avait le soupçon sur un juif traître, tous les officiers, tout l'état-major français antisémite qui voulaient régler le compte des juifs qui leur prenaient la place, se sont mis... À fabriquer ce procès complètement inique contre Dreyfus et à fabriquer des preuves et les uns par impuissance, les autres sachant bien, tout le monde savait à un certain moment que c'était bidon, mais c'était à un moment, c'est devenu une question d'honneur pour l'armée française. L'armée française ne pouvait pas se dédier, ne pouvait pas se renier, je veux dire. Et donc, il fallait que Dreyfus soit condamné.
Il fallait une victime expiatoire.
Oui, et puis il fallait qu'il soit coupable, parce qu'autrement, ça voulait dire qu'on s'était trompé, qu'on avait trompé son monde depuis le début. Et il a fallu l'écroulement et l'acharnement de la famille Dreyfus, de Zola et d'autres personnages qui sont passés un peu sous silence à cause de Zola, mais enfin bon, ça c'est pas très grave, pour renverser tout ça et faire que le scandale se dégonfle. Et ça a coûté très très cher à la droite catholique antisémite de l'époque, parce que ça a ressoudé
la gauche qui s'est un petit peu radicalisée.
La gauche justement. Républicaine s'est ressoudée autour de la défense de Dreyfus, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés au pouvoir en 1902, et que Drummond a perdu son siège aussi. De député d'Algérie. Et en plus, si vous voulez, il devient député d'Alger, il rentre donc à Paris, parce que c'est là où se tient l'Assemblée nationale. Et là, tout d'un coup, il a connu le nirvana, quoi. En Algérie, il a été porté par les antisémites. C'était le roi d'Alger. Il a eu les foules devant lui, toutes les femmes qu'il voulait. Il a dû baiser dans tous les boxons d'Alger pendant 15 jours. Il a connu le paradis, quoi. Alors lui, les vierges, 100 000 vierges au paradis, il les a connues pour de bon. Et non, pas 100 000. Pas autant que ça. Mais enfin bon, il en a connu quelques-unes.
Ah, vous êtes généreux, oui.
Et quand il est revenu en France et qu'il a fallu aller à l'Assemblée, préparer des discours, rencontrer tout ça, l'ennuyait profondément.
Il n'était pas fait pour la vie.
Il n'était pas fait. Il était fait pour raconter des saloperies dans son journal. Oui. Et,
la libre parole.
La libre parole.
Voilà. On la reprend, notre parole, d'ici quelques minutes. On marque un nouvel intermède musical. Je rappelle que c'est Christophe Donner qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radio N pour son dernier roman paru chez Grasset et intitulé La France Goye.
Des clairs de lune au ciel couvert, on apprend, on bataille, on fait sa diva tout l'hiver. Yeah.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Christophe Donner, le temps passe très vite avec vous autour de ce merveilleux roman intitulé La France Goye que nous trouvons en librairie aux éditions Grasset. J'espère que vous aurez un prix.
Bah, je suis sur la liste de deux prix.
Du voilà. Fémina, je crois.
Non, pas du Fémina. Du Médicis et du Renaudot.
Ah, écoutez...
Enfin, ça m'est arrivé déjà d'autres fois, donc je suis un peu vacciné aussi.
Une cinquantaine de romans à votre actif, tout de même.
Oui, quand même. Allez,
c'est impressionnant, hein, impressionnant. On a parlé de l'affaire Dreyfus. Il y a quand même l'honneur un peu de la presse française à ce moment-là. C'est le fameux J'accuse de Zola, qui est un petit peu la Joconde des titres de la presse française. Et vous dites d'ailleurs dans le roman que Zola a mis Drummond KO. Mais c'est plus à travers le journal L'Aurore qui a fait le gros tirage, 500 000 exemplaires. Il a dépassé Drummond en termes de tirage de la presse, parce qu'on a l'impression que la lutte elle est sur le papier, quoi, que la presse a un pouvoir immense.
Mais oui, quand Zola est au tout début, quand Zola voit arriver Drummond dans le salon de Julia Daudet et qu'il le voit raconter des histoires juives, qui fait rire tout le monde, etc., il est très jaloux. Et quand il voit sortir la France juive en 86 et qu'il voit les tirages, il est effaré parce qu'il est inquiet, parce que lui, il sort un roman aussi. Donc, il est en concurrence. Les gens ne peuvent pas acheter trois livres comme ça tous les jours. Et donc, en plus, le mec le dégoûte. Drummond le dégoûte et puis il ne comprend pas comment lui qui se croyait être le meilleur ami d'Alphonse Daudet est supplanté par cette espèce de gnome barbu, cette barbe à poux, il ne comprend pas. Et il en veut d'ailleurs à Alphonse Daudet. Et quand arrive l'affaire Dreyfus, et ben il trouve la bonne occasion de dégommer Drummond. Mais en même temps, ce qui est très curieux, c'est que par exemple à l'enterrement d'Alphonse Daudet, les deux qui tiennent les cordons du poêle, comme on dit, c'est-à-dire qui sont derrière le cercueil, c'est Drummond à côté de Zola. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est des gens qui se fréquentent, qui se voient, qui se disputent, mais qui sont toujours en bonne compagnie. C'est très difficilement compréhensible aujourd'hui. Mais ce qui est très curieux dans le Zola, dans le J'accuse de Zola, c'est qu'à aucun moment
il ne cite Drummond.
Alors certains ont dit c'est pour humilier encore plus Drummond. Je sais pas, peut-être, mais c'était aussi peut-être par respect pour Daudet, pour le fils Daudet qui commence à avoir beaucoup de place, et parce que oui, peut-être il voulait pas lui donner cette, mais c'est quand même curieux, et aussi d'une certaine manière la question juive est pas traitée non plus du tout dans le J'accuse. C'est une erreur judiciaire scandaleuse, et la question juive est évidemment elle est dans l'esprit de tout le monde, mais elle est pas traitée en tant que telle. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que même Herzl, le fondateur, celui qui est censé être le fondateur de l'État juif, qui est à l'époque de l'affaire Dreyfus, quand elle commence, il est chroniqueur en France pour son journal de Vienne.
Et il assiste à la dégradation.
Il assiste à tout. Il suit toute l'histoire. Il envoie ses articles les uns après les autres à son journal. Il suit toute l'affaire de Dreyfus depuis le début et il met beaucoup de temps à dire que Dreyfus est juif. C'est très, très intéressant. Et au départ, il est convaincu de la culpabilité du capitaine Dreyfus. Et c'est seulement quand Dreyfus est dégradé sur la place de l'école de militaire à Paris.
Janvier 1895.
Voilà, 95, que là, Herzl se rend compte, avec la foule qui est là, qui crie « pendez-le, traître », etc., il se rend compte, enfin, il est découragé complètement par la France, il se rend compte qu'il n'y a rien d'autre à faire, et la légende, c'est un peu une légende, mais elle n'est pas fausse, c'est là qu'il a pris conscience de la nécessité de construire un État juif en Palestine.
Alors, on a parlé de Zola, rappelons tout de même que le 24 février 1898, Émile Zola est condamné à un an de prison, que Zola va s'exiler à Londres. Il y a le deuxième procès Dreyfus. Alors, je ne veux pas qu'on ne parle trop que de l'affaire Dreyfus, mais j'aimerais qu'on parle aussi un peu de, parce que vous le montrez dans le roman, s'il y a cette France antisémite avec dont le drapeau est vissé un peu dans le nombril de Drumont. Bon, il y a aussi Maurras avec le nationalisme intégral, mais là c'est encore un peu différent. Daudet va s'allier un petit peu avec Maurras et laisser un petit peu de côté Drumont.
Oui, c'est difficile.
C'est Maurras qui va amener à lui le jeune Daudet. Maurras qui est complètement sourd en plus.
Alors il est complètement sourd, ce qui est compliqué quand on est un homme politique et un homme social en principe. Et puis Maurras, il est royaliste, ce que n'est pas du tout Daudet au départ. Au départ, Daudet, il est républicain, le petit gendre, si on peut dire, de Victor Hugo. Oui. C'est quand même, il est dans la mouvance républicaine, il écrit des articles dans les journaux républicains, et puis il divorce, et puis Daudet... Drumont, il trahit Drumont pour se marier avec la petite fille Victor Hugo. Bon, et à un moment, il revient dans le bercail de Drumont pour devenir antisémite et de droite. Et il fait un rapport dans le Figaro de la dégradation de Dreyfus qui est abominable. C'est-à-dire, il le croise, il passe à côté de lui, il dit, on voit le visage de Dreyfus, il est couleur traître. C'est vraiment le truc, c'est le truc raciste. On peut pas imaginer, très fort aussi, très très imagé. Il a appris le métier de son mentor Drumont et il commence à le saisir à ce moment-là.
Comment se fait-il, Christophe Donner, que Léon Daudet, dans Les Morticoles, règle ses comptes et a cette haine de la médecine et des médecins?
Je pense qu'il n'est pas fait pour être médecin. Il le dit lui-même, il a voulu être médecin pour faire plaisir à son père qui était malade. Et c'est aussi raconté, ça, c'est marrant dans la pièce qu'on a évoquée tout à l'heure, L'Obstacle, où il parle de Drumont, il met en scène Drumont. Il met aussi en scène, Alphonse Daudet fond deux personnages, son fils et Drumont. C'est très étrange, c'est un mélange improbable, mais les deux sont incarnés dans le personnage de sa pièce de théâtre. Et c'est un fils qui est là, Léon Daudet, il est là, il est l'élève de Charcot, il est promis à un grand avenir parce qu'il connaît tout le monde et il aura l'agrégation, etc. Et puis comme il trahit Victor Hugo, Charcot le sac et de toute façon il n'est pas fait pour la médecine. C'est aussi la rencontre avec mon arrière-grand-père qui le montre. Et pourquoi? Parce qu'il a peur du sang, parce qu'en fait c'est un salopard, il n'aime pas les gens. Comment quelqu'un qui n'aime pas les gens pourrait devenir médecin? C'est un peu... Et il a une description, justement, paradoxalement, des médecins qui sont en fait des gens qui n'aiment pas les autres et qui sont indifférents à la souffrance des autres, que pour bien soigner des gens, il faut être indifférent. Enfin, bon, c'est une théorie à la Daudet. Pour bien soigner les gens, il ne faut pas considérer leur souffrance, il faut être impitoyable, etc. Bon. Et c'est un homme qui adorait son père, qui était complètement, qui a soigné son père, qui a porté son père dans les sanatoriums, etc., et qui n'a pas compris, il y a à la fois l'adoration de son père et à la fois le reproche de cette hérédité. Il reproche à son père de lui avoir transmis la folie. La folie, celle qui se transmet par la syphilis. C'est le grand fantasme, la grande peur de l'époque, c'est la syphilis. C'est pas le Covid d'aujourd'hui, le sida d'hier, pas encore d'aujourd'hui, c'est la syphilis. La syphilis, c'est une maladie atroce qui dure des années, qui détruit et qui se transmet chez les descendants. Et donc lui, il a à la fois le reproche, et c'est dans la pièce aussi d'Alphonse Daudet, le reproche de son père qui lui a transmis les gènes dévastateurs, et lui-même la crainte de les transmettre à ses enfants.
Je disais aussi, votre roman est bien évidemment une fresque de l'histoire de la France antisémite, avec aussi en parallèle la montée des anarchistes, alors qu'ils se manifestent par une véritable violence, la propagande du fait. Ça, c'était. Et il y a le personnage d'Eugène Bonaventure Vigo. Un petit mot sur cet homme aussi très présent dans le roman.
Oui, alors
qui éclipse parfois un petit peu Henri Gosset.
Oui, parce qu'il est très attachant. Il est, c'est un anard. C'est un poulbeau, quoi. Il est arrivé à Paris quand il avait 15 ans. Son beau-père était photographe et puis sa mère était une des plus belles filles de Sète. C'est à peu près tout ce qu'on sait d'elle. Et lui était très beau, probablement giton sur les bords du côté de Montmartre. Et puis il rencontre des anarchistes. Et il devient copain avec des anarchistes. Et lui-même distribue le journal. Alors c'est les journaux de l'époque, c'est le Libertaire et d'autres. Et puis il a très vite arrêté par la police et il finit en prison, enfin il échoue en prison, et là il rencontre l'enfer. Les prisons pour enfants à l'époque, alors il en a fait des articles dans l'Assiette au beurre, mais c'est vraiment, c'est des mouroirs pour enfants. Enfin les mômes sont traités, affamés, ils sont traités comme des chiens, quoi. Et il sort de là, il s'en tire, et avec une rage anti-policière, et jusqu'à poser des bombes. Et donc participer à ce mouvement anarchiste violent. Et puis au fil du temps, il s'amende, il rencontre des vrais hommes politiques, il rencontre Jaurès, il rencontre Caillaux, et il devient socialiste, et il devient même radical socialiste, et il devient l'homme de main, si on peut dire, le lien entre Caillaux, qui représente le social-radicalisme de l'époque, et puis les anars. Et il a un rôle très important au moment de la mobilisation en 14, parce qu'il promet à Caillaux de faire en sorte que... Parce qu'il y a un grand mouvement pacifiste à l'époque. Est-ce que les ouvriers syndicalistes, communistes vont accepter de partir à la guerre? Et c'est pas évident. Et c'est des gens comme Almereda qui permettent et qui mobilisent toute cette... qui empêche en tous les cas les anarchistes de créer un courant anti-guerre.
Oui. Ah, vous avez parlé d'Almereda, alors il faut peut-être expliquer.
Alors Almereda, bon, son nom il s'appelle Vigo, et alors on ne sait pas pourquoi il s'appelle Almereda.
Ah, vous le dites dans le roman que c'est, voilà, l'anagramme de...
Alors il y a certains qui contestent.
Il y a de la merde, c'est ça ?
Il y a de la merde, oui, parce que c'est quand arrivait le rata, enfin la nourriture chez les enfants dans cette prison d'enfants, et qu'on posait le truc, le mot c'était « il y a de la merde ». Donc voilà, on va manger de la merde, pour vous dire un peu l'état d'esprit de ces prisons.
Mais alors c'est Almereda, il est un temps homosexuel avec Laurent Tellade, c'est ça ? Il y a quelques jours.
Oui.
Puis alors il devient, il épouse une femme... Et il met au monde quelqu'un qui a laissé une trace quand même.
C'est le père de Jean Vigo.
C'est le père de Jean Vigo. Ouais. Jean Vigo qui est né à la Goutte d'Or en 1905.
Et il y a des scènes où il emmène le petit Vigo, donc Jeannot, qui est encore un nourrisson. Et c'est sa femme qui porte l'enfant. Et lui, il parle à la tribune et il monte à la tribune.
Et il a le biberon dans les poches du pantalon,
absolument,
c'est ça.
Oui,
tout à fait. Alors... Christophe Donner, le temps passe vraiment très très vite avec vous. Je voudrais quand même, à l'extrême fin du roman, il y a un changement un peu d'adversaire ou de cible. On reste sur l'optique de la race, c'est plus la race juive, mais on bascule vers le nouvel ennemi qui menace la France et ses frontières, c'est l'Allemand, la race allemande.
Oui, cette mutation, elle est, on la suit très bien avec les discours de Léon Daudet, justement. Donc il crée l'Action française en 1908 et... L'affaire Dreyfus a mis à genoux l'antisémitisme. Il n'est plus du tout à la mode. Mais les antisémites sont toujours là. Et donc, il leur faut une autre pitance. Et l'autre pitance, c'est les Allemands. Et il faut récupérer l'Alsace et la Lorraine. Les Allemands... Et donc, il y a tout un truc qui se développe. Et notamment, enfin, la campagne... acharné de Léon Daudet contre les juifs, ce qu'il appelle les juifs allemands, les espions juifs allemands, qui durent jusqu'à la guerre de 14. Et à la guerre de 14, ça s'arrête net. Et on ne parle plus que des Allemands. Et donc, on va décrire les Allemands comme des sous-hommes, comme une race inférieure, avec des descriptions qui relèvent exactement du même procédé utilisé pour décrire les juifs race inférieure. Et ça, c'est prodigieux de simplicité et d'évidence. On voit comment la rhétorique anti-juive a servi de modèle à la rhétorique anti-allemande et comment elle va se développer pendant toute la guerre. Et on comprend que on comprend ce qui s'est passé après. Quoi,
En fin de compte, Christophe Donner, quand on parle aujourd'hui de racisme et quand on lit les écrits de la presse française de l'époque, des années 1890-1910, on se dit que le racisme d'aujourd'hui, c'est de la rigolade.
Oui, enfin, sauf que quand on lit les réseaux sociaux, mais alors, il y a moins de talent dans les réseaux sociaux.
Sans doute, hein, n'est pas Daudé qui veut.
Voilà, et c'est la différence. Ouais. Parce que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a des écrivains derrière. C'est ce qui la rend, peut-être qu'il la maintient aussi, qui la rend odieuse, qui la rend incompréhensible, qui la rend scandaleuse. Mais c'est aussi peut-être ce qui l'empêche de devenir totalement destructrice quoi. En France. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, peut-être je me trompe. Mais...
Christophe Donner, un grand merci d'avoir été avec nous devant le micro de l'émission littéraire de Radion. Je rappelle le titre de votre dernier roman, c'est chez Grasset, La France Goye. Plein de bonnes choses pour vous, plaisir de vous retrouver pour un prochain roman. Il y a une suite ?
Oui.
Parce que ça s'arrête en 14,
parce que,
en fait.
Voilà, ça s'arrête en 14.
Et l'histoire de la famille continue.
L'histoire de la famille continue, et surtout celle de Léon Daudet.
Alors, à très bientôt. Merci Christophe Donner. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous
assez
écouter.
Assez patient pour nous écouter.
Absolument. Mais il y en a. Il y en a. Et je rappelle que l'émission, si vous en avez manqué le début, est disponible sur via Internet. C'est extraordinaire. www.yannickpetit.fr. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Et à samedi prochain, toujours à 11h sur Radion.